Bonjour à tous les auditeurs d'Aligre FM. Bonjour Stéphanie Ronchevski de Gore.
Bonjour Nathalie Perrin.
Voilà, bonjour. Et puis Michele Saporiti.
Bonjour Nathalie, bonjour Stéphanie.
Voilà,
très bien de vous retrouver.
Oui, de se retrouver pour cette nouvelle saison 2023-2024. Je me perds dans les dates. Donc émission Philosophie au présent, fruit d'un partenariat entre le Collège international de philosophie et Aligre FM, n'est-ce pas, 93.1, on aura tout dit, on devient de plus en plus professionnel, c'est juste génial. Et aujourd'hui, on a pour cette nouvelle saison, et pour la première émission, en direct, hein, on ne triche pas, on prend des risques, hein, c'est dur la radio, on a le plaisir de recevoir le président directeur de l'Assemblée collégiale du Collège international de philosophie, voilà, Alain-Patrick Olivier, qui nous fait l'honneur aujourd'hui de venir pour une émission dont la thématique est les 40 ans du Collège international de philosophie. Alors, petit clin d'œil déjà, tout de suite, on pense à dire qu'Aligre FM va fêter également ses 40 ans hein, en tant que radio libre. Et nous aussi, qui appartenons à cette institution, sommes une institution libre. Alain-Patrick Olivier, merci d'être venu. On ne va pas faire semblant de se voussoyer parce qu'on ne se voussoie pas dans l'existence et dans la vie de tous les jours. Donc merci à toi d'être venu aujourd'hui, cher Alain-Patrick, pour cette émission Les 40 ans du CIPH. Merci. Bonjour.
Bonjour et merci, chers amis, même si on ne sait pas s'il y a des amis. Et tout à fait d'accord pour ce tutoiement républicain qu'on a essayé aussi d'adopter au Collège international de philosophie.
Oui, tout à fait. Voilà, qui est le tutoiement de l'égalité. Pas d'hierarchie, mais on y reviendra. Cher Alain-Patrick, je te présente philosophe. Professeur des universités, département des sciences de l'éducation, j'ai tout noté, UR 2661 ou 2661, centre de recherche en éducation à Nantes. Tes domaines de recherche esthétique et philosophie de l'art, mais aussi philosophie de l'éducation, philosophie allemande, théorie critique. En ce moment, enfin là bientôt au CIPH, alors on redonnera hein, toutes les adresses internet pour consulter toute la programmation liée au Collège international de philosophie. Mais bientôt tu fais un séminaire avec Étienne Elmer qui s'intitule Michel Le Deuf, changer l'imaginaire philosophique ou c'est pas ça, non? Alors je me suis trompée, c'est autre chose. Ah, mais c'est, alors Michel, on s'est trompé?
Ah, peut-être, ouais, c'est un congrès.
C'est un congrès ou c'est un séminaire?
Alors, j'ai été effectivement élu directeur de programme en juin 2022.
Oui.
En même temps, d'ailleurs, que Michele, me semble-t-il. Et à ce titre, je n'avais pas de titre particulier, puisque le Collège international, c'est aussi un lieu où, effectivement, tout le monde est à égalité et on propose un programme de recherche indépendamment du fait qu'on soit professeur des universités. Je remercie le Collège de m'avoir accepté comme directeur de programme malgré le fait que j'étais professeur des universités, par ailleurs.
Malgré le fait.
Voilà, et j'ai proposé un séminaire sur une recherche que je n'avais pas pu développer ni dans mon université, à l'université de Nantes, parce que ça rentrait pas vraiment dans le cadre de mes enseignements, ni vraiment non plus dans l'année de délégation que j'avais fait au CNRS, où j'avais commencé de réfléchir sur ces questions parce que j'avais travaillé dans un laboratoire de recherche qui s'intéressait aux arts du spectacle. Et donc pour le Collège international de philosophie, comme on m'a expliqué qu'il fallait aussi présenter des recherches qui étaient inédites, qu'on ne fait pas à l'université précisément.
Oui, donc
j'avais proposé un séminaire sur le matérialisme dialectique et la formation du spectateur. Et d'ailleurs, il me semble que je t'ai croisé.
Exactement,
Nathalie,
c'était l'année dernière, tout à fait. Mais alors du coup, là cette année, le titre de... Tu poursuis ce séminaire au CIPH ?
Alors oui, ce sera au printemps, donc la programmation n'est pas encore annoncée. Pour le moment, on a annoncé les programmations du premier semestre. Vous savez que le Collège international de philosophie, c'est 2 semestres, donc la programmation est parue sur le site, et il y a aussi une brochure qui est parue, donc pour la période septembre 23, janvier 24.
Moi,
je ne vais pas présenter deux séminaires. J'en présenterai un au printemps avec Alexander Neumann sur l'éventail des marxismes. C'était la thématique qu'on a choisie. Mais effectivement, avec Étienne Elmerde, alors nous sommes responsables des grandes conférences, c'est-à-dire...
Ah, donc ce que j'ai cité, c'est une des grandes conférences.
C'est une des conférences. Alors nous allons avoir effectivement, nous allons accueillir Michel Ledeuf et puis nous allons accueillir également ce semestre Stéphane Lessonich. Stéphane Lessonich est le nouveau directeur de l'Institut de recherche sociale de Francfort, ce qui est connu depuis un siècle, maintenant comme l'école de Francfort. D'ailleurs, l'Institut organise aussi un congrès pour ses 100 ans. Donc, ils sont un peu plus âgés que nous, donc ils fêtent leurs 100 ans. Et nous, au Collège international, nous fêtons nos 40 ans. Nous sommes beaucoup plus jeunes, comme Radio Aligre. Et Stéphane Lessonich, qui est sociologue, nous parlera, sera le 19 octobre à la Halle Saint-Pierre, sa vision de sociologue, justement, sur le passé, le présent, l'avenir aussi de l'Institut de recherche sociale et de la théorie critique d'une façon plus générale ou la sociologie critique.
Voilà, et on en profite comme on est en train de parler un peu de tout ce qui se passe au CIPH, les grandes conférences, les séminaires, de tous les directeurs de programme qui sont là, de toi qui as une direction de programme et qui en même temps dirige cette institution, Alain-Patrick Olivier. On rappelle l'adresse internet https://cIPH.org. Et là, vous allez trouver tout le programme en cours, hein, le septembre 2023 jusqu'à janvier 2024. Et puis, il y aura une annonce, hein, ça se passe par semestre. Voilà, et il y a effectivement des séminaires avec des gens qui proposent des recherches absolument originales, qui n'ont rien à voir avec les recherches de l'université, voilà, parce qu'elles sont libres et qu'elles ne sont pas adressées à des gens qui sont en poste à l'université. Ça sera assez intéressant de le rappeler à l'instant dans cette petite histoire que nous allons commencer de la naissance de cette institution singulière dans le paysage français, mais aussi internationale, puisque le Collège international de philosophie a une réputation également à l'international. Il y a des chercheurs qui viennent de pays du monde entier. Hein. Il y a combien de nationalités qui sont représentées au CIPH ? Enfin, on a beaucoup de gens d'Amérique du Sud, on a évidemment beaucoup de représentants de l'Europe dans son ensemble, les pays d'Afrique, l'Asie. Oui. Hein, voilà, donc on a des représentants de cette internationalisation de la pensée philosophique au croisement des champs de recherche autre que la philo d'ailleurs. Hein.
Oui, alors nous avons effectivement des personnes, nous avons aussi des lieux. Donc il faut savoir que le Collège international de philosophie, il a des activités dans divers lieux, donc en France, à Paris, dans les régions, mais également dans différents pays du monde. Et les chercheurs ou les philosophes peuvent proposer des directions de programme dans tous les pays du monde, et c'est ce qu'ils font et ce qu'on les encourage. Alors on a des liens effectivement plus ou moins étroits avec certaines régions, certains pays. Là, très récemment, il y a le projet assez avancé de fonder une association latino-américaine ou sud-américaine des amis du Collège international de philosophie, voilà, qui rassemble les collègues du Brésil, du Chili, de l'Argentine, aussi parce que l'histoire du collège était marquée aussi par ces échanges, et en particulier au Chili, où avec la dictature, le collège a pu jouer aussi à un moment un rôle pour la défense de la philosophie et l'enseignement de la philosophie, la pratique de la philosophie. Et c'est pas quelque chose qui va de soi, c'est quelque chose qui est toujours menacé. Et donc ces échanges et ces solidarités, il est important de les maintenir, mais tu vas nous en parler.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Oui, on fait un très bref rappel de l'histoire du Collège international de philosophie dont on fête la naissance, les 40 ans aujourd'hui. Hein. Une renaissance peut-être de cette institution qui a donc été fondée en 1983 sous François Mitterrand et par Jean-Pierre Chevènement, sous la houlette de Jean-Pierre Chevènement, ministre de François Mitterrand, en 83, et fondée par des grands penseurs de cette époque-là, des grands philosophes, François Châtelet, Jacques Derrida, Jean-Pierre Faye, Dominique Lecour, qui ont pensé une institution fond, alors qui prend pied dans une histoire qu'on pourrait dire de défense de la philosophie, de son enseignement, de sa place nécessaire, on pourrait dire dans l'école avec un grand E, hein, dans l'éducation avec un grand E également, suite à des attaques, hein, si on refait un petit peu l'histoire, le CIPH, donc né en 83, s'inscrit dans un mouvement de défense de l'enseignement de la philosophie, de sa place au lycée, mais aussi d'une volonté que cette philosophie vienne avant le lycée, qu'elle soit présente vraiment dès les toutes petites classes, et cette nécessité de défendre la présence d'un enseignement de la philosophie élargi à l'école, hein, avec un grand E, c'est-à-dire dans tous les établissements d'enseignement, c'est une défense qui fait suite à une attaque, hein, du gouvernement qu'on a appelé Giscard Abi, hein, gouvernement de droite, qui, pour des raisons, on pourrait dire, idéologiques, hein, voulait supprimer la place de la philosophie dans le secondaire notamment. Il y a eu donc toute une réaction, hein, une réaction au sens positif du terme, c'est-à-dire d'essayer de défendre la philosophie, autour de Jacques Derrida et de ce fameux grand mouvement qu'on appelle le Greffe. Alors les gens qui seraient intéressés, je leur conseille de relire Du droit à la philosophie de Jacques Derrida, paru en 1990. Et là, ils retrouveront toutes les grandes thèses de Derrida, de ce mouvement de défense. Alors, ce qui est intéressant au CIPH, c'est que la philosophie y est pensée à l'intersection, comme une intersection des autres champs de pensée. Hein. On pourrait peut-être rappeler certaines des intersections qui existent au CIPH. Alors, il peut y avoir, par exemple, une intersection philosophie-philosophie, mais il peut y avoir aussi une intersection philosophie et art. Philosophie et politique, oui. Philosophie et musique, hein, philosophie et science. Donc, la philosophie, là, on assiste... En tout cas, c'est même dans les idées de Jacques Derrida, de François Châtelet notamment, la philosophie est destituée d'une position hiérarchique, hein, telle que, par exemple, Victor Cousin avait pu la penser au XIXe siècle. La philosophie ne peut plus désormais inventer des concepts, produire des idées, produire de la résistance à la bêtise ou à la doxa, sans s'allier à des champs, hein, qui sont eux aussi pensés comme des champs de pensée, comme des champs créatifs, et avec lesquels elles s'associent pour pouvoir finalement produire du nouveau. Donc le paradoxe du CIPH, c'est de mettre en avant la philosophie comme nécessaire à l'école et dans l'éducation, tout en destituant une position qui était une position de surplomb, on pourrait dire, issue de la philosophie métaphysique, hein, définie comme métaphysique. Est-ce que j'ai bien résumé ? Alain Patrick, est-ce que tu voudrais rajouter des choses de cette défense de la philosophie, mais pas telle qu'elle avait pu être défendue par Victor Cousin, c'est-à-dire comme une espèce de servante, hein, au Collège international de philosophie, on pense une autonomie de la philosophie sans que celle-ci soit pensée comme un champ de pensée supérieur à tout autre. Je crois que c'est un peu ça la grande idée de cette institution.
Alors je pense qu'effectivement, il y a deux tendances. Il y avait une tendance qui est à l'origine du Collège international de philosophie, qui est celle de la défense de l'enseignement de la philosophie. Tu citais le groupe de recherche sur l'enseignement de la philosophie. Il y a eu des états généraux de la philosophie en 1979, parce qu'on parlait que la philosophie puisse être optionnelle en terminale. Donc là, les enseignants de philosophie se sont mobilisés, pas seulement de philosophie,
de
à
d'histoire.
La Sorbonne,
voilà,
dans un amphithéâtre de 2000 places avec Vladimir Jankélévitch qui a pris la parole et Jacques Derrida.
Ouais.
Donc il y a cette dimension de défense de la philosophie qui a conduit d'ailleurs même Jacques Derrida qui animait un séminaire sur les institutions de la philosophie à remonter effectivement à ce moment Victor Cousin qui a on pourrait dire aussi une double responsabilité, celle d'avoir effectivement défendu la philosophie à son époque dans la Chambre des Pairs contre l'idée que la philosophie était dangereuse, contre le duc de Breuil, parce que la philosophie, elle inclut un moment du doute. Donc Victor Cousin avait dû préciser à la Chambre des Pairs que la philosophie n'était pas dangereuse, il n'était pas dangereux d'enseigner la philosophie à des jeunes de 18 ans.
Bien au contraire, qu'elle pouvait être une adjuvante de la pensée de l'Église, presque.
Alors en tout cas, c'est ça. Donc elle pouvait effectivement, c'est ça, elle ne remettait pas, et d'ailleurs D'ailleurs, Descartes a aussi prouvé l'existence de Dieu, donc elle pouvait aussi être au service de l'ordre moral. Donc on a toujours cette double dimension, il y a cette orientation. Et puis, effectivement, pour la fondation en 1983 que tu rappelles avec le président de la République.
François Mitterrand
donc, avait mis dans son programme politique l'idée d'une défense de la philosophie suite précisément à ces mouvements de défense de la philosophie qui aussi sont des continuations du mouvement de mai 68 et d'une façon plus générale. Et oui. D'autre part, en particulier avec Jean-Pierre Chevènement, qui continue toujours d'ailleurs aujourd'hui d'être influent sur la politique française, avec Jean-Pierre Chevènement, il y avait l'idée d'une réflexion sur l'ensemble de la recherche et de la politique de la recherche au début des années 80, donc quand le gouvernement socialiste a pris ses fonctions, et donc l'idée de demander à des philosophes de réfléchir justement sur des orientations de la recherche qui ne seraient pas effectivement des orientations purement déterminées par des mobiles purement technique ou économique. Donc il y avait une sorte de réflexion sur l'ensemble des savoirs. Donc on a ces deux dimensions-là qui coexistent, défense de la philosophie et de son enseignement à l'école, et puis aussi d'une réflexion en commun, effectivement, comme tu le rappelais, avec tous les savoirs et aussi avec des pratiques artistiques. L'idée que les artistes aussi sont présents dans le Collège international de philosophie, développent également des réflexions. Et ça n'est pas simplement un lieu qui accueille des recherches au sens strict, ni non plus seulement des enseignements de philosophie.
Oui, je vais te laisser la parole, Stéphanie, parce que tu vas nous parler du rapport bleu, qui est un petit peu le livre rouge, paradoxalement, du CIPH, avec vraiment la philosophie qui est au cœur même du CIPH. On rappelle que le public qui vient au Collège international de philosophie n'est pas un public d'étudiants au sens classique du terme, mais je te laisse la parole. C'est vraiment une institution libre.
Pour aller dans la continuité avec tout ce que vous venez de dire, je voulais m'appuyer sur ce rapport bleu qui est d'ailleurs publié aux presses universitaires de Paris-Nanterre, qu'on peut trouver. C'est vraiment le texte fondateur et un de ses quatre co-signataires, le philosophe Jean-Pierre Faye, met en valeur justement la possibilité pour le collège de créer des réseaux. Alors évidemment, à l'époque, il ne parlait pas des réseaux Internet, bien sûr. Et pour lui, la possibilité de philosopher passe par ce qu'il appelle l'interscientificité, c'est-à-dire un dialogue entre les sciences, c'est-à-dire un dialogue avec les autres disciplines, un dialogue de manière plus générale avec ce qu'il appelle, au sens de Descartes, le non-philosophique, et Descartes qu'il cite, page 176, de la manière suivante, je dirais hardiment, paraphrasant une proposition offensive de René Descartes, ces derniers mots, qui sont sans doute les premiers à convenir au projet du collège. La philosophie ne parle jamais mieux de la philosophie qu'en parlant d'autre chose. Dès lors, cette autre chose nous parle de la philosophie. La proposition du Collège de philosophie dans sa perspective internationale est d'être la recherche même de cet autre. Alors, un peu plus loin, il continue pour décrire la force du CIPH qui, je le rappelle, donc, comme tu viens de le dire aussi, n'est pas une université diplômante fondée sur un rapport hiérarchique de maître-élève, mais un centre de recherche basé sur des affinités entre des directeurs de programme. Et il dit déjà, donc c'est un texte qui a 40 ans, il dit déjà que la philosophie se dirige vers cet autre qu'Emmanuel Lévinas nomme le visage, et c'est précisément là où cette opération de visage à visage est la plus gratuite, la plus apparemment éloignée de l'utilité, que survient sa force la plus féconde. Et cela est possible par le climat de confiance amicale qu'il importe d'y instaurer, la technique du travail par groupe d'affinité et non par la relation hiérarchique de l'hôte et du visiteur, du maître et du disciple, pour ne pas dire de l'esclave. Son objectif, faire de la rationalité interscientifique l'allié de la création libre et de la liberté philosophique. Alors, je sais, Alain Patrick, que la question de l'art et de l'émancipation est au cœur de tes préoccupations. Et même en 2016, tu as fait au Centre Atlantique de Philosophie un séminaire qui s'intitulait « Émancipation, aliénation, reconnaissance ». Alors, est-ce que tu pourrais... est-ce qu'on pourrait dire, tu penses, Alain Patrick, que le CIPH s'applique toujours, aujourd'hui, à tisser des liens horizontaux, collégiaux et non verticaux hiérarchisés, et que par cette ouverture aux non-philosophiques, aux autres disciplines, le collège a une fonction émancipatrice pour la philosophie et son enseignement, et si oui, émancipatrice de quoi? Voilà, oui. Question générale. Quoi.
Oui, merci. Effectivement, d'ailleurs, ma direction de programme a assisté le séminaire, mais elle porte le titre philosophie et émancipation. Oui. Donc, il s'agit de savoir de quelle émancipation on parle. Alors, quand on parle de philosophie, on va parler d'abord de l'émancipation intellectuelle, l'émancipation intellectuelle avec son rapport au savoir et son rapport aux institutions de savoir et puis à une relation pédagogique comme celle que tu as rappelée, effectivement, à la position du maître et du disciple. Au collège, il y a l'idée d'imaginer une institution sans hiérarchie, ce qui est une expérimentation très, très difficile à réaliser au quotidien, mais ça fait partie effectivement de la spécificité du collège. Donc ça se manifeste par exemple dans le fait que les directeurs, les directrices de programme sont à égalité, comme on le disait tout à l'heure, c'est-à-dire il n'y a pas de hiérarchie entre les titres, et de ce fait, il n'y a pas de hiérarchie entre un professeur, un enseignant et un auditeur, un auditeur effectivement qui va participer. Il est ouvert effectivement à toute personne. On doit proposer des manifestations justement qui doivent pouvoir être accessibles à tout le monde. C'est d'ailleurs ce qui change quand on propose un séminaire à l'université. Si on veut qu'il puisse être un séminaire du collège, il faut qu'il puisse être accessible et qu'il puisse être accessible également gratuitement. Puisqu'il peut y avoir aussi beaucoup de séminaires, de conférences dans le monde où il faut une participation financière. Donc ça, ce sont les conditions pour le collège. Ensuite, l'émancipation, donc, du fait même de ce positionnement maître-élève, et puis éventuellement, ouais, tu évoquais la logique possible avec la relation maître-esclave, donc pose aussi la question du lien entre émancipation intellectuelle et émancipation sociale, c'est-à-dire la transformation aussi de la société et éventuellement la transformation de la société à travers la question de l'émancipation intellectuelle. C'est un ancien directeur de programme, Jacques Rancière, qui a beaucoup travaillé, mais aussi justement avec des collègues de sa génération, avec Patrice Vermeeren, avec Geneviève Fraisse aussi, sur une réflexion concernant l'émancipation intellectuelle, en particulier dans les années 80. Mais son livre est toujours aussi influent, Le Maître Ignorant.
Tout à fait,
donc il travaillait sur les façons dont les ouvriers se sont auto-émancipés. C'est-à-dire, ils ont pu avoir accédé non seulement au savoir, mais tout simplement à l'écriture et à la lecture, non pas seulement à travers l'action d'enseignants philanthropes qui existaient, mais avec des méthodes qui leur permettaient par eux-mêmes d'apprendre à lire, à écrire, à accéder au savoir, à produire, à écrire des poèmes, à faire leurs propres journaux. Et s'ils avaient vécu dans les années 80, sûrement à faire leur propre radio libre.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
C'est ce qu'on se disait là, en faisant des petits signaux avec Michele, on se disait, il a déjà répondu.
Oh, il a déjà répondu. Il a déjà anticipé la
voilà,
question.
On voulait poser la question de l'expérimentation politique du CIPH et tu as absolument répondu
voilà,
déjà.
Tu as déjà dit voilà. Oui, qu'elle est CIPH.
Et grâce à Stéphanie qui a posé la question de l'émancipation qui est éminemment politique au sein du CIPH.
Alors, ce que je peux peut-être préciser, effectivement, dans cette expérimentation, on pourrait dire horizontale. En même temps, il y a une dimension très verticale dans le Collège international de philosophie qu'il ne faut pas oublier. Et d'ailleurs, on a commencé cette émission, tu as parlé, tu t'es adressé à moi effectivement comme le président de l'Assemblée collégiale, il y a le directeur du Collège international de philosophie. Et au-delà de cette relation à l'intérieur de l'Assemblée collégiale des philosophes, il y a quand même ce lien avec le pouvoir présidentiel, puisque le Collège est une création aussi du président de la République.
Tout à fait, oui.
Et il y a justement... Et les deux dimensions sont aussi importantes, enfin aussi nécessaires que l'une que l'autre, c'est-à-dire l'indépendance à l'égard de l'État, ce dont on parlait tout à l'heure, mais en même temps une certaine... un certain lien à l'État qui avec sa dépendance et de ce fait une certaine hiérarchie, puisque le Collège a pu justement apparaître du fait de cette action du président de la République, des gouvernements et aujourd'hui donc des ministères qui sont attentifs en tant qu'ils représentent l'État, justement à ce qu'il existe quelque chose comme le Collège international de philosophie.
Et alors, Patrick, peut-être on peut dire que l'existence même de CPH est une manière de questionner le politique. Mais on va réfléchir.
C'est un lieu d'expérimentation politique, c'est-à-dire il est difficile. Autant dans l'université, on peut peut-être un peu oublier, on est confronté à des décisions du ministère, mais ici, il s'agit tout simplement, et nous, on le voit au quotidien, puis là, on doit toujours repenser, voilà, il faut toujours que le collège repense son lien à l'État. Alors, justement, pas seulement dans un lien de dépendance, mais surtout aussi bien ou d'abord dans son lien de résistance, c'est-à-dire de contre-institution. Et ces deux dimensions, institution, institutionnalisation et contre-institution, contre-institutionnalisation, ça fait partie du travail. Voilà. D'où le fait que le collège est inassimilable. Il ne peut pas être intégré à une université, une structure de recherche traditionnelle. Autrement, il perdrait sa raison d'être. Mais d'un autre côté, s'il était une simple association, une simple société savante, il perdrait également sa raison d'être.
Tout à fait. On reviendra dans la seconde partie de l'émission. Pour le moment, on va avoir le plaisir et grâce à nos techniciens, mais là il s'agit de Julien Cherdieu à qui je fais des signes un petit peu sibyllins depuis tout à l'heure pour lui dire nous allons annoncer donc une musique que tu as choisie, Alain-Patrick Olivier, une musique de Messiaen, La Fauvette des Jardins, dont l'interprète est monsieur Roger Muraro. On revient tout de suite après. Merci beaucoup, Julien Cherdieu.
En direct. Thank you.
Oui, donc Alain Patrick Olivier, qui nous fait l'honneur aujourd'hui pour les 40 ans du CIPH d'être là. Alors Alain Patrick Olivier, président de l'Assemblée collégiale du Collège international de philosophie et en même temps le directeur de cette institution née il y a 40 ans, en 83. Tu as choisi, Alain Patrick, cet extrait de la musique de Messiaen, La Fauvette des Jardins, l'interprète Roger Muraro, tu as choisi. Tu voulais nous faire un petit commentaire de ce choix musical ?
Oui, puisque cet été, nous réfléchissions aussi aux 40 ans du Collège international de philosophie et nous avons commencé de rassembler des documents d'archives pour pouvoir proposer aussi un volume et puis peut-être même une collection qui rendrait compte de ces 40 ans de travail dont une partie demeure inédite. Et nous faisons un travail avec l'INA, donc l'Institut National d'Audiovisuel, sur les archives sonores. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à écouter une conférence qu'avait donnée Olivier Messiaen au Collège international de philosophie au grand amphithéâtre de la Sorbonne dans le cadre d'un colloque sur l'écriture musicale et la rature qui avait été organisé par le compositeur Michael Levinas. Mmh. Et Olivier Messiaen faisait l'analyse de son œuvre dont vous venez d'entendre un extrait, donc qui dure 40 minutes, son œuvre pour piano qui s'appelle La Fauvette des Jardins. Ça rencontrait pour moi un intérêt que j'avais pour la musique d'Olivier Messiaen, bien entendu, mais aussi pour sa démarche intellectuelle, parce que dans la démarche d'Olivier Messiaen, il y a aussi une dimension de pensée, il y a une dimension aussi scientifique, et il y a une dimension que je dirais métaphysique. Mmh. La dimension scientifique, elle consiste tout simplement à recueillir, à noter le chant des oiseaux. Donc Messiaen est un ornithologue et donc a noté énormément de chants d'oiseaux. Et d'autre part, à travers cette démarche, il transforme aussi nos représentations de la temporalité et de la spatialité. Et en particulier, là, La Fauvette des Jardins, il s'agit d'une œuvre que Messiaen a composée suite à son séjour dans le Dauphiné, parce que Messiaen a trouvé un lieu dans lequel il pouvait noter beaucoup de chants d'oiseaux et surtout restituer un paysage sonore. Il était tellement fasciné par ce lieu qu'il a dit qu'il avait acheté une petite maison. Et puis, donc, il notait, alors à la fois à partir de l'enregistrement et à la fois aussi directement sur son papier, tout ce qui se passait dans ce paysage depuis 5h du matin jusqu'à 21h. Et cette œuvre, La Fauvette des Jardins, c'est comme un condensé de ce paysage sonore où on entend les différents oiseaux qui interviennent. Mmh. Et Olivier Messiaen a acheté cette propriété, bien qu'il n'était pas très attiré par la propriété en tant que telle, mais dans les années 30, et il explique comment progressivement ce lieu donc a été investi par les automobiles, par les touristes, s'est trouvé menacé. Et à travers cette œuvre, il a voulu aussi préserver ce qui va peut-être disparaître. Donc il a voulu préserver ce paysage sonore du Dauphiné qui un jour, peut-être après sa mort, disparaîtra. Voilà, donc il y a aussi je pense qu'il y a aussi une pensée, vous voyez là, qui dépasse la question purement musicale de la recherche rythmique ou... voilà, de la recherche musicale au sens étroit.
Alors merci voilà, pour ce choix d'Olivier Messiaen, La Fauvette des Jardins, de Roger Muraro pour l'interprétation, œuvre pour piano. Nous sommes dans la seconde partie de notre émission sur les 40 ans du Collège international de philosophie, né en 1983. Et dans cette deuxième partie, on voudrait évoquer le congrès du Collège international de philosophie qui va marquer, on pourrait dire, des festivités activité intellectuelle.
Voilà,
on va, allons-y. Qui va marquer le 7, 8 et 9 décembre, donc un congrès du Collège international de philosophie sur la naissance de cette institution. Désormais, il y a deux lieux qui vont accueillir ce congrès, hein, dont je rappelle le 7, 8 et 9 décembre 2023. La cité universitaire, hein, au sud de Paris, hein, très bien desservie.
Pour la première journée.
Pour la première journée, pour le 7 décembre. Et puis pour le 8 et le 9 décembre, le campus Condorcet, qui est un des partenaires et désormais le lieu, hein, probablement, du CIPH, en tout cas qui accueille le CIPH déjà depuis, voilà, depuis au moins l'année dernière et désormais maintenant, voilà, un vrai partenaire et qui va accueillir pour le 8 et le 9 décembre le campus Condorcet, ces deux dernières journées consacrées, voilà, à la naissance de cette institution dont on disait juste un petit peu avant, et j'avais noté qu'elle est une institution assez particulière, parce qu'on pourrait dire que c'est une institution désinstituante, voilà, désinstituante à plusieurs titres, désinstituante de la philosophie elle-même, en tant que la philosophie a eu une position sous Victor Cousin en même temps de, voilà, de supériorité et de servante, hein, ce qu'elle n'est plus au CIPH, ni supérieure ni servante, en même temps créée comme une institution et ayant besoin finalement de l'État, hein, d'un État qui puisse la protéger, protéger son existence en tant que, qu'institution indépendante, et précisément indépendante par rapport à une université, par rapport à l'école dans son ensemble, puisqu'elle, on le répète, elle est accueillante de tous les publics désirant écouter de la recherche vivante, hein, il ne faut quand même pas oublier que c'est une institution qui voulait, qui a en son centre l'idée de faire de la philosophie vivante, c'est-à-dire celle qui est au présent, en acte, qui est en train de se faire et qui n'est pas toujours audible en tant que telle, parce que voilà, il peut y avoir des jeunes chercheurs ou pas d'ailleurs, hein, des professeurs de lycée comme moi je suis, comme Stéphanie est, pourtant nous cherchons, nous pensons, hein, nous avons à ce titre peut-être le droit, en tout cas seulement au CIPH, de pouvoir partager des champs de recherche. Donc c'est non seulement une ouverture à des gens qui n'ont pas de titre universitaire, qui n'ont pas de place à l'université et qui pourtant sont de vrais chercheurs, et ouvert à un public qui n'est pas un public d'étudiants, qui n'a pas besoin de montrer sa carte d'étudiant, qui n'a pas besoin de payer des droits et qui veut simplement écouter de la philosophie vivante. Donc une institution désinstituante, hein. Tu rappelais ce rapport à l'État nécessaire, hein, puisque la question de la survie du Collège international de philosophie se pose quasiment depuis sa naissance, hein, de toute façon. Hein. Donc la nécessité d'être avec l'État et en même temps un contrepoids à l'État, hein, auquel on tient ce contrepoids de la pensée critique, c'est-à-dire de la philosophie, hein, tout simplement. Alors, on a bien rappelé les dates, hein, 7, 8, 9 décembre. Et Stéphanie, je te laisse. Ah, pardon, Alain Patrick Olivier, qui voulait dire un petit mot. Pardon.
Bah, effectivement, seulement pour renchérir, parce que c'est ce que Patrice Vermeuren, dans sa thèse sur Victor Cousin, appelé le jeu de la philosophie de l'État. Eh bien, c'est exactement ça, c'est un jeu de la philosophie et de l'État.
Tout à fait, absolument.
Alors, on va peut-être citer quelques grandes personnalités, Alain Patrick Olivier, qui va être présent pour les 40 ans de CIPH. Aussi pour notre public.
On tout disait... à fait, pour le congrès du 7, 8 et 9 décembre. Alors, il y a des grands noms. Alors, il y a Catherine Malabou. Voilà,
alors, il y aura des grands noms, effectivement, comme Barbara Cassin, qui fait beaucoup pour le Collège international de philosophie, puis que vous allez recevoir bientôt, je crois.
Bah, à ce moment-là, le 9 décembre, elle sera notre invitée.
C'est
notre
ça. Donc, et avec qui, voilà, aussi, on travaille. Il y aura Geneviève Fraisse. Et à ce propos, je voudrais souligner que... comme tu le disais aussi, le CIPH est un lieu où on peut développer des recherches qu'on ne peut pas faire par ailleurs. C'était le cas de Hélène Sixou ou de Geneviève Fraisse. Hélène Sixou devrait être présente aussi au congrès. C'était leur cas au début des années 80. Le Collège international de philosophie a fait sa place aux femmes, non seulement aux femmes philosophes, mais aussi aux recherches féminines ou aux recherches sur les femmes, avec justement déjà des enjeux sur comment appeler ce champ de recherche, effectivement. Est-ce qu'on peut regrouper juste des recherches sous ce titre, puisqu'il s'agissait aussi de donner la place à peut-être des champs de savoir délégitimés. Voilà. Mais pour revenir donc au congrès, donc on aura effectivement aussi Jacques Rancière qu'on citait tout à l'heure. On attend aussi Alain Badiou. Donc beaucoup de témoins de ces 40 ans. Patrice Vermeuren. Alors Jean-Pierre Faye est un peu âgé. Il risque de pas venir. Mais Emmanuel Faye, son fils, va rendre compte aussi de sa recherche. Donc on a les grandes figures qu'on est vraiment très heureux d'accueillir, et on est d'autant plus heureux qu'elles vont pouvoir rencontrer les plus jeunes générations. Nous accueillons aussi au collège des étudiants et puis des jeunes chercheurs. Donc l'idée du collège, c'est de rendre compte de, comme ce que tu évoquais Nathalie, c'est-à-dire des recherches qui sont ancrées sur le présent, les recherches que font actuellement les directrices et les directeurs de programme que vous êtes également, de leur donner une audience pour que le public aussi puisse rencontrer ces personnes et ces champs de recherche. Je dis ces personnes et ces champs de recherche puisque aussi tu évoquais l'idée de la collégialité ou de former des réseaux.
Oui, j'allais en parler là.
Voilà, c'est ça. Donc c'est ça aussi l'idée d'avoir aussi une rencontre de beaucoup de personnes. Le titre, c'est faire de la philosophie avec une parenthèse ou faire philosophie. Donc pour revenir aussi sur 40 ans de pratique, c'est vrai que c'est à la fois et loin, mais en même temps, on peut faire un véritable bilan. Enfin, on voit qu'on a déjà, il y a toute une histoire. Donc, il y aura des tables rondes thématiques qui rendront compte justement de ces modalités, de comment on fait, on pratique la philosophie ou le lien à la philosophie, entendu au sens très large que tu rappelais, oui. Nathalie. Et puis d'autre part, il y aura 3 tables rondes historiques qui reviendront justement sur le moment de la fondation dont on a parlé dans la première partie de l'émission, les années 80-90, les années 2000 justement,
vous écoutez Allegre FM 93.1.
Très bien. Alors, Stéphanie.
Oui, bah justement, voilà, je voulais revenir sur la question de la collégialité en lien, là, cette fois-ci, avec certains de tes travaux. Alors, Alain-Patrick Olivier, tu es entre autres un spécialiste de Hegel et tu as écrit, par exemple, un article très intéressant dont le titre est Famille et forme de vie, une discussion à partir de Hegel, hein, qui est paru aux archives de philosophie en 2022 aux éditions Centre de Sèvres et qu'on peut trouver sur Kern. Alors, tu y démontres que cette expression de forme de vie est souvent utilisée en faisant référence à Hegel. Or, l'expression de forme de vie, Lebensform, est finalement assez peu présente dans son œuvre, mais elle est surtout connue par les analyses de Jegi ou Sprenger, je ne sais pas si je prononce très bien. Tu essaies en fait de penser dans cet article à la notion de famille à partir de ce concept, et je te cite qu'il est... Tu dis qu'il est difficile de parler de forme de vie à propos de la famille et à propos de la conception de la famille de Hegel, car la famille est un moment de la vie éthique chargé de négativité dans lequel on ne peut vivre ni demeurer. Alors, est-ce que cette notion de Lebensform, de forme de vie, est applicable au Collège international de philosophie? Est-ce que le CIPH, le Collège, pourrait s'apparenter à une sorte de famille? Car, je cite encore ton article, « La famille n'est pas conçue par Hegel comme un lieu dans lequel on pourrait séjourner. Elle désigne une réalité essentiellement transitoire, comme les... » Justement, là, j'ai pensé au statut du directeur de programme, hein, qui s'arrête au bout de 6 ans. Et un peu plus loin, page 10, tu dis « La définition de la famille par Hegel comme institution éthique signifie qu'elle s'oppose à la nature première du besoin. Cela implique qu'elle soit une structure voulue par ses membres et, en ce sens, une réalisation de la liberté sociale. Le principe de l'autonomie de ses membres s'oppose ici à la famille patriarcale. » Et là, évidemment, j'ai encore pensé à l'organisation collégiale du CIPH. Et ma question est la suivante. Être au CIPH, est-ce que c'est une forme de vie? Est-ce que c'est une forme de vie qui peut être qualifiée de familiale? Et familiale en quel sens? Et de manière plus générale, peux-tu dire dans quelle mesure Hegel peut encore t'aider à penser la direction du CIPH, hein, et pour faire référence au titre de ton article, hein, « Famille et forme de vie, une discussion à partir de Hegel », Est-ce que tu continues de discuter avec Hegel quand tu t'occupes du CIPH?
Merci. J'avais pas pensé à cet article nécessairement, puis à ce concept de forme vie, mais il me paraît très intéressant, surtout dans cette dimension hegelienne. Alors, avec cette dimension d'entité transitoire, ça me paraît tout à fait caractéristique du collège dont l'avenir est toujours incertain. On ne sait pas de quoi va être fait l'avenir. D'ailleurs, nous ne savons pas. Nous ne sommes même pas sûrs qu'il existera en janvier 2024. C'est toujours une institution qui doit se réinventer, qui est en mouvement. Avant, il s'agissait d'une association. Elle a été intégrée en 2017 à l'université, à la communauté d'établissement, l'université Paris-Lumière. Voilà. Mmh. Mais l'université Paris-Lumière va se transformer, va prendre fin aussi. Donc, il va falloir réinventer un lien justement à l'institution, à l'État. Donc, cette dimension de transitoire. Et puis aussi, cette dimension de contradiction et de négativité. Je pense que si on peut parler de forme de vie, si on peut penser le collège comme un lieu familial, bon, bah, de toute façon, la famille, selon moi, puis selon Hegel, effectivement, est traversée aussi de la contradiction et de la négativité. Voilà. Mais il s'agirait justement de penser ces contradictions comme étant nécessaires, c'est-à-dire que si elles n'existaient pas, il faudrait que justement elles apparaissent dans le collège. Mais au quotidien, pour répondre à ta question, la notion de collégialité, c'est quelque chose sur laquelle on a voulu insister. L'Assemblée qui a été élue en 2022. Et je pensais plutôt à Jacques Derrida et à sa politique de l'amitié quand il disait, c'est un long commentaire d'une phrase de Montaigne qui lui-même citait Aristote, « Ô mes amis, où il n'y a pas d'amis », c'est-à-dire il y a l'idée que le collège n'a que des amis, ne compte que des amis, disait Derrida, et en même temps que l'amitié n'est pas possible et que l'amitié, justement, surtout si on a un grand nombre d'amis, le fait d'avoir un grand nombre d'amis fait qu'on ne peut pas être amis, en fait. Et donc, nous sommes donc une institution où il y a 50 directrices, 50 directeurs de programme, et puis 22 membres du comité scientifique, 30 membres du conseil d'administration, plus tout, effectivement, nos amis qui ne sont pas forcément au Collège international de philosophie, que vous citez Geneviève Fraisse tout à l'heure. Donc nous avons beaucoup d'amis et en même temps cette amitié elle est à la fois aussi impossible que nécessaire et c'est précisément le lieu d'une recherche, d'un questionnement. Moi je lis Derrida pour essayer de penser cette politique de l'amitié peut-être même au sens large, à la fois de façon théorique et pratique.
L'amitié c'est le plan d'immanence de ceux qui même quand ils se disputent ont en commun un champ, un plan, une terre, disait Deleuze et Guattari. Donc, qu'est-ce que la philosophie ? Le temps tourne, mesdames et messieurs. Il va falloir que nous annoncions le petit générique. Et là, je fais un grand clin d'œil à Julien Cherdieu qui est derrière. Le petit générique de Flanosophie, le petit interlude. Voilà, le petit interlude de Michele Saporiti.
Je vous souhaite la bienvenue à cette pétrite rubrique de philosophie au présent qui s'appelle Flanosophie. Et aujourd'hui, on commence la deuxième série de nos Flanosophies avec une invitation qui est toujours la même. Prenez votre temps, éloignez encore pour un instant votre portable parce que désormais vous le savez, flanosopher, c'est avant tout nous accorder les luxes des instants résiduels. Tout d'abord, rappelons ce qu'est la flanosophie. Très simplement et aussi très humblement, la flanosophie est la quasi-science de divertissement intellectuel. Elle est la pratique plutôt benjaminienne de flâner dans la sophie, dans la sagesse, dans le savoir, le texte, la connaissance, dans tout ce qui procure un plaisir intellectuel. Et c'est l'effet même du plaisir qui nous rend flanosophes, qui nous le voulons ou non, qui nous en sommes conscients ou non. Et aujourd'hui, nous commençons cette deuxième série de flanosophie avec l'exploration d'un espace qui accompagne nos vies, qui marque nos existences humaines et intellectuelles, l'empreinte. L'empreinte est un objet philosophique d'une telle puissance, d'une si grande signification, que si nous réfléchissons attentivement, tout ce qui reste, mais aussi tout ce qui résiste, un peu comme le CIPH, est une empreinte de quelqu'un ou de quelque chose. Mais à bien des égards, aussi ce que nous appelons temps et espace, ne sont rien d'autre que la manière la plus rationnelle que nous avons conçue pour synthétiser des séries innombrables d'empreintes, de traces, de silences qui se produisent sur les plans apparemment différents. Faisons alors appel à notre éblouissante imagination. Première expérimentation. Nous avons finalement la chance de flâner sur la planète Mars. Nous sommes dans un immense désert rouge qui nous rappelle peut-être quelque chose des voyages de Petit Prince. Une énorme et bizarre empreinte apparaît devant nos yeux. Quoi faire devant l'énigme de l'empreinte inconnue? Tout d'abord, il faudrait faire un coup de fil à Tintin, mais malheureusement, il serait trop chargé pour nous aider. Alors, notre bon flâneur est obligé de faire appel à quelques petites notions de sémiotique et sémiologie. Si les signes, comme nous l'apprend la tradition classique, est aliquid, qui stat, pro aliquo, quelque chose qui tient lieu d'une autre chose, cette bizarre empreinte qui met en difficulté nos connaissances est un véritable signe qui renvoie à quelque chose d'autre bien probablement inconnu. Et alors, le désert rouge qui nous entoure n'est pas du tout un désert de signification. Il devient un vaste espace d'empreintes, des traces qui mettent à l'épreuve notre façon de connaître les phénomènes. Et pour être modérément kantienne et sûrement sceptique, le fait même que nous appelons désert un tel espace martien et que le rouge soit la couleur de cet espace devrait justement être questionné. Venons alors à la deuxième expérimentation. Cette fois, nous avons l'immense chance de flâner sur un arc-en-ciel. Finalement, notre rêve d'enfance est réalisé et cet arc-en-ciel est démesuré, illimité. Les plus grands arc-en-ciel jamais apparus que lient tous les continents. Mais le flâneur est immédiatement sidéré. Ses pas ne laissent aucune empreinte sur la surface multicolore. Néanmoins, le flâneur décide de poursuivre son chemin. Rien ne change pour une raison très simple. Les empreintes de son passage ne sont pas visibles sous la superficie de l'arc-en-ciel, mais au-dessus de l'arc même. Le flâneur se rend compte et tourne finalement les regards vers ce qu'il y a au-dessous. Notre époustouflante planète a l'air bizarre. Elle est plutôt marron et brûlée, les verts des forêts a laissé sa place aux gens paille, l'eau des océans a perdu toutes ses nuances de bleu et d'azur, l'air est plein de fumée et de désolation. Notre philosophe s'aperçoit que cet arc-en-ciel est le seul lieu où demeure toute la couleur qui faisait la Terre un paradis désormais perdu. Et voici surgit la question d'aujourd'hui. Ce spectacle si désolant, si funeste, de quoi est-il empreinte? Peut-être, se dit le philosophe, ce que je regarde est le signe du passage de moi-même et de mes semblables sur la Terre, mais surtout, réfléchit attentivement le philosophe, ce spectacle est la trace de l'appétit démesuré qu'une grande partie de l'humanité a voulu maladroitement satisfaire. Voici alors, cher philosophe, ce qu'une empreinte nous dévoile, une rencontre entre le connu et l'inconnu, mais aussi l'occasion pour nous toutes et nous tous de se concevoir comme des êtres qui laissent constamment des traces, et ces traces sont souvent le signe d'un présent incertain et d'un futur très probable.
Merci beaucoup pour cette flânosophie écosophique. Oui. Hein, l'écosophie, voilà.
Nous avons un séminaire aussi
sur l'écosophie. Voilà, tout à fait sur l'écosophie. Le temps presse, Stéphanie. C'est parti pour le petit questionnaire. Alors, à notre invité Alain-Patrick Olivier, président de l'Assemblée collégiale et directeur du Collège international de philosophie. Voilà, il fallait que je le redise.
Donc, le principe, 5 questions, 5 réponses immédiates, courtes. Alors, qu'as-tu envie de dire à la jeunesse ?
Eh bien, il faut que la jeunesse se rebelle. Il faut que la jeunesse, surtout, pense la jeunesse passée. Et voilà.
Alors, deuxième question. As-tu des talents cachés ?
Je pense que tous les talents sont cachés. D'abord, il faudrait croire à la notion de talent. J'essaie plutôt de la remettre en question.
D'accord. Si tu étais ministre de la Culture, quelle première décision est-ce que tu aimerais prendre ?
Alors, j'essaierai de convaincre le président de la République qu'il faut donner autant de budget au ministère de la Culture qu'au ministère de l'Armée, pardon, au ministère de la Défense. Puis d'autre part, je multiplierai par 100 la subvention au Collège international de philosophie, bien entendu.
Oui. Ah oui.
Bravo.
Alors, à quel animal pourrais-tu associer ta recherche ?
Alors, on l'a déjà associé à la fauvette des jardins ce soir.
Bon, on a déjà répondu. Quel personnage aurais-tu aimé rencontrer et pour lui dire quoi ?
Alors, j'aurais aimé rencontrer Socrate pour lui demander si la façon dont Platon a parlé de lui était vraiment fidèle ou pas.
Excellent.
Super.
Génial.
Eh ben, merci. Il est 16h58. Nous étions en direct pour l'émission Philosophie au présent, partenariat depuis désormais plus de 5 ans avec Aligre FM 93.1. Nous avions une équipe technique du Tonnerre, Fouya et Julien Cherdieu qui ont été là pour nous aider. Pardon pour les bugs de ma part, ben voilà, c'est une nouvelle année. Il faut qu'on s'y remette un petit peu, mais on a quand même été pas mal. Nous avions Alain Patrick Olivier, voilà, qui est président du Collège international de philosophie et son directeur. Merci d'être venu pour parler des 40 ans du Collège international de philosophie, comme nous allons aussi cette année fêter les 40 ans d'Aligre FM, dernière radio libre, et nous, probablement, la dernière des institutions libres de penser et de penser de la philosophie à l'intersection des autres champs de la culture. Hein, c'était ça notre émission. Merci Alain-Patrick Olivier d'être venu aujourd'hui. Merci.
Merci à vous et puis je vous attends au congrès donc les 7, 8, 9 décembre.
Tout à fait. Puis nous, la prochaine fois, le 14... bien sûr. Exactement. Le 14 octobre 2023, nous nous retrouvons pour Philosophie au présent à Aligre FM avec cette fois-ci une de nos autres collègues, Pauline Vermeren, qui viendra parler des terrains philosophiques, approche critique du pouvoir et des dominations. Eh bien, je vous dis, chers auditeurs, rendez-vous au 14 octobre 2023 en direct, 16h-17h sur Aligre FM. Merci à la technique. Merci beaucoup.
Là, on file.